Oui, il accueille Bonneau et sœur Bonneau. Qui est cette sœur Bonneau? Des femmes qui l'ont remplacée au cours des temps, des années. Et actuellement, c'est sœur Nicole Fournier, qui est directrice générale, une sœur grise de Montréal. Car ce sont des sœurs grises, les sœurs de Sainte-Marguerite d'Youville, hein, qui ont fondé ensemble avec... La Société Saint-Vincent de Paul et les prêtres de Saint-Sulpice, qui sont au fond, dans un certain sens, les fondateurs de Montréal en 1642. Et alors, puis la Société Saint-Vincent de Paul que vous connaissez, qui a été fondée par le bienheureux Frédéric Ozanam à Paris, et qui s'est transportée très rapidement à Montréal. Alors c'est donc Sœur Fournier qui va aujourd'hui vous parler par ma voix. Comment ça? Bien parce que elle a publié il y a quelques années à peine... un petit ouvrage très, très, très intéressant. Je sais pas, j'avais regardé ça d'un œil distrait un peu dans ma bibliothèque et je l'avais regardé un peu. Puis là, je l'ai lu très attentivement et c'est fascinant. L'accueil Bonneau, c'est le titre de ce petit ouvrage paru chez Le Méac, grande maison d'édition à Montréal. L'accueil Bonneau, 115 ans de partage. À l'époque, c'était 115 ans. Donc, par Nicole Fournier, sœur Nicole Fournier, des sœurs grises de Montréal, je vous le rappelle, interviewé par Pierre Filion. Et Pierre Filion a fait un excellent travail d'édition de ce que sœur Nicole Fournier a pu lui confier. Alors aujourd'hui, bien, en 1998, nous connaissons l'accueil Bonneau, d'autant plus que l'accueil a subi une catastrophe terrible le 9 juin dernier. Ce fut une nouvelle qui s'est répandue même à travers le monde, hein. Cette explosion terrible à cause du gaz. Cette année, l'accueil Bonneau, donc, fête ses 122 ans maintenant, 98. 122 ans d'existence et bientôt 123 ans. Mais ça a des origines beaucoup plus lointaines dans le cœur de Sainte-Marguerite d'Youville, et de quantité d'autres personnes très généreuses depuis la fondation de Montréal en 1642. À Montréal, on peut dire que tout le monde connaît ce lieu d'entraide, surtout aujourd'hui maintenant, où les plus démunis trouvent réconfort et assistance. Évidemment, surtout depuis le 9 juin, mais la majorité des gens ignorent. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que les Sœurs Grises de Montréal, la Société Saint-Vincent de Paul, je le répète, et les prêtres de Saint-Sulpice, les Sulpiciens, comme on les appelle, sont à l'origine de l'accueil Bonneau. Et de plusieurs œuvres sociales des 18e... et 19e siècle, car les œuvres sociales, en particulier catholiques, sont très nombreuses à Montréal. Il y a aussi, évidemment, l'Armée du Salut et quelques autres, mais on peut dire que l'Église catholique, qui est évidemment très majoritaire, a des œuvres sociales presque sans nombre. J'ai déjà vu la liste, ça atteint presque 400 œuvres. Or, les Sœurs Grises, dont le nom original est Sœurs de la Charité de Montréal, n'oublions jamais ça, les Sœurs de la Charité, comme les Sœurs de la Charité de Mère Teresa de Calcutta, je sais pas si elle a copié sur les Sœurs Grises, mais non, les Sœurs de la Charité, il y en a dans toutes les régions du monde. Nous, ce sont les Sœurs de la Charité qui nous sont propres, donc les Sœurs de la Charité de Montréal, subdivisées en Sœurs de la Charité d'Ottawa aussi, et ce sont toujours les mêmes Sœurs. Mais celles-ci, les Sœurs Grises, les nôtres, ont commencé leurs activités de charité en 1737. Il y a donc 262 ans. Longtemps avant la fondation du Canada, comme on nous dit parfois. En 1877, donc, elles avaient déjà quitté leur maison du Vieux-Montréal à cause des inondations. Il y avait souvent des inondations là-bas. Ça survenait à chaque printemps. Mais elles étaient quand même restées actives, ces sœurs, au sein du quartier. Surgit un monsieur Joe Vincent. Joe Vincent qui va rencontrer monsieur René Rousseau, vicaire de la paroisse Notre-Dame, et aumônier de la Société Saint-Vincent de Paul à Montréal, pour lui dire qu'il est prêt à faire quelque chose pour ses démunis. Il en a toujours eu. Et qu'il cherche des appuis. Alors, monsieur Rousseau, le Sulpicien, va immédiatement penser aux sœurs grises. C'est normal, hein? Des alliés de longue date. Et ces trois présences du début vont d'ailleurs toujours rester. Depuis 1904, l'accueil Bonneau est logé dans les locaux qui appartiennent aux prêtres de Saint-Sulpice, et encore aujourd'hui. Tous les dimanches, les membres de la Société Saint-Vincent de Paul participent au service du déjeuner, en plus de donner une subvention annuelle pour le fonctionnement de la maison. Ils assurent aussi, vous savez, cette tradition du grand repas du jour de l'an avec l'évêque de Montréal. On voit ça dans les journaux chaque année. Hein? Et cette tradition se poursuit toujours. Puis, dans les chroniques de l'accueil Bonneau, on peut retrouver les traces de tous les évêques de Montréal depuis plus de 100 ans, y compris, évidemment, bien sûr, le cardinal Léger, qui est décédé en novembre 91 et que j'ai eu la chance de bien connaître, ce qui m'a permis de faire une émission sur lui. Hein? Les destinées de l'accueil Bonneau sont, depuis son incorporation en 1979, c'est assuré, c'est par un conseil d'administration qui est composé de sœurs grises, de membres de la Société Saint-Vincent de Paul et de Sulpiciens, puis de la directrice générale. La Saint-Vincent de Paul reconnaît l'accueil Bonneau comme l'une de ses œuvres, puis on peut dire que les sœurs grises et les Sulpiciens en font autant. Au début de ses activités, l'accueil était situé dans ce qu'on appelle le coin des casernes, sur le terrain qui va jusqu'à la rue Bleury, à Montréal, évidemment, toujours, jusqu'au bâtiment de la brasserie Molson. Mais le premier accueil Bonneau, qui s'appelait le Piste Saint-Charles, était une dépendance de la maison de M. Vincent. Et au départ, c'était un refuge de jour et de nuit pour personnes errantes des deux sexes. Mais comme l'hôpital Notre-Dame parle aussi d'expansion, donc le refuge va venir s'installer dans les locaux actuels, c'est-à-dire, ça a été reconstruit, là, vers 1904. Le projet prend d'abord forme en 1903 quand les Sulpiciens décident de fonder un hospice, disent-ils, dit la chronique, sur un terrain occupé par un pâté de maisons situé entre les rues Saint-Paul, des Commissaires, Friponne, oui, la rue de la Friponne, et Bon Secours. Ça vous situe, pour ceux qui travaillent dans le Vieux-Montréal ou qui connaissent bien le Vieux-Montréal, hein, ça vous situe. Alors l'œuvre, c'est alors appelé l'œuvre, écoutez bien, des 100 foyers. Le vestiaire des pauvres. Ça prend du temps avant de prendre le nom de Sœur Bonneau. Sœur Bonneau arrive en 1909. Et la chapelle Saint-Christophe va être inaugurée en 1927. Et cette chapelle était le rêve de Sœur Bonneau, qui disait que, dans son cœur de religieuse, que les itinérants, qu'on appelait alors des personnes errantes, ou des gueux sans famille et sans amis. Et c'est un peu vrai que c'est ça. J'en ai adopté un, vous savez, je l'ai eu pendant 23 ans. Il est mort à 40 ans, mon fils. Mais que ces gens-là avaient autant besoin de nourriture spirituelle que de nourriture matérielle, c'est bien sûr. Hein? Et dès 1920, la Société de Saint-Vincent-de-Paul confie à Sœur Bonneau la tenue de retraite pascale, qu'elle organise avec l'aide des franciscains. Alors, à cette époque, il y avait un accent beaucoup plus religieux dans les activités de l'accueil. Dans les chroniques, on peut lire le compte-rendu de ces retraites qui vont se tenir jusque dans les années 60. Vous savez en quoi ça consistait, les jeunes, ces retraites-là? Je ne sais pas ça, peut-être. Ça consistait en 3 jours de retraite, vraiment, pour lesquels on donnait des vêtements neufs à tout le monde. C'était durant le carême. Et de grands prédicateurs, oui, des grands prédicateurs venaient prêcher aux clochards avant la tenue d'une grande confession générale, confessaient tous leurs péchés. Puis, j'imagine qu'ils avaient l'impression d'être très légers, après, d'être libérés. Ils appelaient ça la retraite des chômeurs parce qu'il y avait beaucoup de sans-emploi durant les années 30. Et c'était à la suite d'un crash, là, d'une chute dans l'économie épouvantable. Puis, il y avait les clochards alcooliques, les personnes démunies. Mais qui donc est Sœur Bonneau? Cette Sœur Bonneau était la fille de Jules Bonneau et de Émilie Granger. Elle est née à Saint-Athanase de Kamouraska, le 14 décembre 1859. À 12 ans, elle étudiait à l'orphelinat Saint-Alexis de Montréal. En 1878, elle entre au noviciat des Sœurs Grises, à 18 ans, où elle prononce ses vœux le 7 février 1881. À 20 ans à peine, elle s'occupe d'un groupe de 60 orphelines, imaginez. 60 orphelines à l'hospice Saint-Joseph. Et 14 ans plus tard, en 1895, Sœur Bonneau dirige les destinées de l'hospice de Saint-Antoine de Longueuil. Et ce, jusqu'en 1905. Elle s'y occupe d'une famille de 7 religieuses, 15 dames âgées et 60 enfants. C'est du monde. Les Sœurs Grises ont maintenu cet hospice actif à Longueuil jusqu'aux années 80. En 1910, on la retrouve sur Bonneau à l'hospice de Bon Secours, en charge d'un énorme chaudron de soupe qu'elle distribue aux mendiants du quartier. Elle a 50 ans, puis elle travaille encore fort. Les prêtres de Saint-Sulpice, qui s'occupent en particulier de l'église Notre-Dame, comme vous savez, la belle église Notre-Dame, mais ils la nomment intendante de l'hospice. C'est le début d'une activité qui va se prolonger au-delà de sa mort. Le jeudi saint de l'année 1920, 112 retraitants reçoivent la communion, la Sainte Eucharistie, le corps vivant de Jésus ressuscité, qui les aime tellement, les aime d'un amour total, infini. Et à cette assistance spirituelle se joint un secours matériel. Les retraitants reçoivent des vêtements et des chaussures propres, tout à fait convenables. C'est le démarrage d'un service qui fonctionne toujours, le vestiaire qui permet aux hommes à l'accueil Bonneau, là, de se vêtir puis de se chausser convenablement toute saison. En 1927, M. Olivier Moreau, qui va devenir Monseigneur Olivier Moreau, qui est curé de Notre-Dame et que j'ai eu la chance de connaître aussi très bien, mais donc, j'étais jeune, il était recteur de l'Université de Montréal, mais il accorde aux instances de ce qu'on appelle l'ami des pauvres un local où aménager une chapelle permanente, et les pères franciscains vont y célébrer pendant longtemps une messe chaque dimanche matin. Notre sœur Bonneau fait littéralement des miracles avec des moyens de fortune. Imaginez qu'elle sert jusqu'à 700 repas par jour. Faut le faire, hein? Elle en donne plus de 60 000 durant l'été seulement. Seulement l'été 31. C'est une année de crise et de dépression, comme je vous ai laissé entendre tout à l'heure. Et les pauvres affluent vers la ruelle du bord de l'eau, où sœur Bonneau tient cette organisation où ce qui brille le plus, c'est l'amour des pauvres. La petite rue où ces gens viennent chercher leur soupe et quelques vivres, parfois des vêtements, s'appelle alors, comme je vous ai dit, la rue Friponne. Oui, la rue de la Friponne. Et sœur Bonneau, ça la gêne un peu ce nom-là. Je lui en veux presque d'avoir changé de nom, parce que j'aime ça, ce nom-là, moi. Sœur Bonneau, ça vise un jour de changer ça pour un nom plus respectable. Alors, un fonctionnaire municipal lui dit, « Quel nom préférez-vous, ma sœur? » Et très gentiment, elle lui dit, « Je vous laisse le choix. » Et le lendemain, bien, la rue Friponne se nomme la rue Bonneau. Et qu'est-ce qui arrive après ça? Ben, ça donne lieu au début à des méprises très amusantes. Il y a une lettre qui arrive, et elle porte comme adresse « Révérende sœur Friponne, rue Bonneau ». Oui, oui, « Révérende sœur Friponne, rue Bonneau ». Alors, pour ceux qui n'osent ou ne peuvent venir à l'accueil Bonneau, eh bien, la charité de leur bienfaitrice, sœur Bonneau, se fait ambulante. Alors, elle retire des indigents des caves. Oui, des sous-sols, des caves, là, où c'est en terre battue. J'en ai déjà visité. Quand j'ai adopté mon fils, il m'amenait voir de ses amis, qui avaient les mêmes origines que lui, des orphelinats abominables, l'institut en barre. Il m'a amené voir des jeunes gens du même âge, qui vivaient dans des caves, comme ça. Il n'y a pas si longtemps, 1970. Et elle retire ça les indigents des caves, des greniers et même des écuries pour les amener à l'hôpital et leur permettre une mort chrétienne. C'est vous dire que cette sœur Bonneau, qui vient du comté de Kamouraska, une vraie mère Teresa, une vraie mère Teresa de Calcutta, ben oui. 24 années d'existence ont rendu son œuvre populaire. Sœur Bonneau s'en désole. Pourquoi? Parce que la première fois que les journaux s'emparent de son nom puis de sa photographie, elle a course à en plaindre à la mère générale. Elle n'aime pas ça. Elle l'assure que ce n'est pas de sa faute. Et alors, connue de tout le monde dans la métropole, Montréal, sa réputation déborde ensuite sur les villes voisines. Le 3 août 1934, le 3 août 1934, souvenez-vous de cette date. Sœur Bonneau meurt. Les grands quotidiens de Montréal, dont la publicité indiscrète l'a fait gémir, ben la pleure. Il y a de longs articles. tandis que l'annonce du décès donne le signal d'un pèlerinage ininterrompu à la rue Guy. La rue Guy, oui, au coin de ce qu'on appelait le boulevard Dorchester, qui s'appelle maintenant le boulevard René-Lévesque. C'est là où il y a cette maison immense des sœurs grises, et où vous pouvez aller, s'il vous plaît, allez-y vénérer le tombeau de Sainte-Marguerite d'Youville, la fondatrice. Une femme de chez nous, née à Varennes, avant la conquête, mais qui est là. On peut la vénérer dans une petite chapelle. Je crois que son corps a été transporté dans la grande, je ne suis pas sûr. Parce qu'ils ont aussi une très grande église, là. Mais c'est magnifique. Il y a des sœurs merveilleuses. Puis il y a un musée, d'ailleurs. Puis il y a les tombes des sœurs en bas, au sous-sol. C'est très beau à voir, très impressionnant. Alors, il y a un pèlerinage, finalement, ininterrompu, qui se rend à la rue Guy, là, au coin de René-Lévesque, à la maison mère des Sœurs Grises. Tous ceux qui ont accueilli jadis la bonté extraordinaire de Sœur Bonneau sont venus la lui rendre en prière. Un homme reste plus de 2 heures agenouillé près du cercueil. Il prie. Confidence intime, probablement. D'autres lui appliquent des médailles, des chapelets, et réclament une parcelle de ses vêtements. Alors, 4 jours durant de 700 à 800 personnes défilent dans la chambre mortuaire. Il y a des prêtres, des religieux, des laïcs, des professionnels, des artisans, des bienfaiteurs et des protégés. Évidemment, des riches et des miséreux. Et tous apportent avec leurs condoléances un hommage d'admiration, et je dirais de vénération, et surtout de gratitude. On a vu un ami de son œuvre déposer sur le cercueil un billet de banque en disant « Les pauvres vont avoir de la peine, sans doute, de ne pas pouvoir payer une messe pour leur bienfaitrice. Mais je le fais en leur nom. » Les funérailles sont célébrées le 7 août. Au milieu d'une assistance compacte et recueillie, quelques jours après l'enterrement, le curé de Notre-Dame, à son tour, chante un service solennel dans cette immense église paroissiale qu'est l'église Notre-Dame. C'est comble. Il n'y a plus de place. Et c'est tendu de noir, comme on faisait à l'époque, des grands voiles noirs dans les fenêtres, comme pour les plus grandes funérailles, des plus grands personnages. D'être un grand personnage, car c'est ça la grandeur de quelqu'un. C'est la grandeur de son cœur, comme me l'avait écrit mon fils un jour. C'est le cœur qui compte. Longtemps, la figure de Sœur Bonneau a hanté l'accueil et les environs. Sœur Nicole Fournier, la directrice générale, raconte, « Il m'est arrivé, il y a quelques années, d'entendre un clochard me raconter qu'il venait de la voir au coin de la rue. » C'est possible, qui sait? Ce n'est cependant qu'en 1975 que le vestiaire des pauvres change son nom pour l'accueil Bonneau. C'est assez récent, comme vous voyez. Nom sous lequel maintenant tous les services de cette œuvre sont connus. On constate d'ailleurs en examinant le document qu'elle reproduit dans son livre, qui est extrait des archives de l'accueil, et écrit de la main même de Sœur Bonneau, elle avait une jolie écriture, sur quelques détails pour l'année 1930, juste après le crash, là. C'était difficile à Montréal. Alors, elle met le nom de l'association, l'œuvre des sans-foyers, le vestiaire des pauvres, paroisse Notre-Dame. Et puis que c'est sur la rue Bonneau, près de la rue des Commissaires. Et elle raconte qu'en 1929, elles ont servi 9600 repas. L'année suivante, c'est pas 9600 repas, c'est le double, 18 200 repas. C'est pour vous donner une idée. Elle se pose des questions. Les repas sont-ils distribués à tout venant, sans contrôle? Et elle répond, oui. Les repas sont-ils distribués à certaines classes particulières de la population, en tenant compte de leur religion ou de leur nationalité? Alors, à tous ceux qui se présentent pour en accepter un seul. Elle est d'une générosité totale à l'égard de tout le monde. Il y a une autre figure importante qui a marqué les destinées de l'accueil, Bonneau, hein. C'est sœur Eugénie Bernier que j'ai connue aussi. Elle était la septième enfant de Marie-Jacques et de Wilfrid Bernier de Saint-Tite. Elle entre chez les sœurs Grises le 5 août 1935. Un an après la mort de sœur Bonneau, comme vous voyez, qui est morte en 1934, comme je viens de vous dire. Et la première partie de sa carrière se passe auprès des orphelins, puis elle s'oriente vers le service social à la fin des années 50, puis arrivée à l'accueil Bonneau le 17 mai 1965. Le 17 mai, c'est l'anniversaire de la fondation de Ville-Marie, hein? De Radio, pas de Radio Ville-Marie, mais de vraiment Ville-Marie, Montréal. Elle y demeurera jusqu'à la fin de sa vie, le 23 juin 1986. Sœur Eugénie Bernier, c'était une sœur au grand cœur aussi, comme tant de sœurs grises. Elle a participé très activement aux bonnes œuvres de l'accueil Bonneau. Sa figure reste presque légendaire dans la maison, aussi légendaire peut-être que celle de sœur Bonneau. Elle a passé 21 ans au service des démunis et des sans-abri. Plusieurs anecdotes subsistent encore à son sujet. Chaque mercredi matin, savez-vous ce qu'elle faisait? Elle allait sur la rive sud de Montréal. Bon, elle conduisait une voiture, évidemment. Chercher le pain qui venait de la compagnie Weston. Pendant longtemps, à l'accueil, on offrait du pain et de la soupe en hiver et des sandwichs l'été. Alors, sœur Bernier a toujours été responsable de la cueillette du pain. Et pour ses courses, elle conduisait une voiture derrière laquelle elle accrochait une remorque. Et un mercredi matin, écoutez bien ça, c'est merveilleux, vers 8 heures, imaginez, un mercredi matin, 8 heures, c'est la grosse circulation. Bien, la remorque pleine de pain s'est détachée de la voiture et s'est promenée librement quelques instants sur le pont Jacques-Cartier. Alors, sœur Bernier s'est arrêtée pour attacher sa remorque. Mais pas question pour elle de rattraper seulement la remorque. Elle veut aussi récupérer tous les pains de ses pauvres éparpillés sur la chaussée. Et devant le désarroi de cette pauvre sœur grise qui porte son costume, on peut la reconnaître, elle n'est pas perdue dans la foule, comme malheureusement aujourd'hui, je regrette de le dire. Et devant le désarroi, donc, de la pauvre sœur, plusieurs automobilistes, voyant cette religieuse, que probablement quelques-uns connaissaient, au lieu de s'impatienter devant l'événement inattendu, mais sont descendus de voiture, puis ils ont ramassé le pain des pauvres avec elle. Nous manquons de signes aujourd'hui, nos religieuses sont absentes de notre société. Oh, on m'en voudra peut-être, mais combien j'aime voir des signes de consécration dans la rue. Des interpellations à être meilleures, à consacrer le peu que nous consacrons. Elle qui consacre tout. Sœur Bernier avait des amis, des complices. Elle vouait, entre autres, une grande amitié à un célèbre clochard du port de Montréal nommé Fidèle. Et ce brave homme disait avoir à son crédit pas moins de 87 arrestations pour des motifs que l'on devine. Alors, avant de fréquenter les postes de police, il avait fréquenté tous les bars du coin. Dans ces bons et lucides moments, ce Fidèle, c'est son nom, mais il accompagnait sœur Eugénie Bernier, qui en prenait grand soin. On dit qu'il y avait entre eux une belle amitié, une complicité, comme entre amoureux. C'est l'amour qui vient de l'Évangile. C'est l'amour qui vient du cœur des sœurs grises. Un certain dimanche matin, Fidèle est arrivé à la messe habillé comme le prince de Galles. Personne ne le reconnaissait. On doutait que ce soit Fidèle, sous les habits neufs et distingués. Quelqu'un lui dit, « Hey, t'es checké comme un ministre? » Il a rétorqué, « Ouais, un ministre sans portefeuille. » Et bien habillé, mais sans dessous, comme d'habitude. Souvent, le dimanche, Fidèle apportait des fleurs pour garnir l'autel. Des fleurs qu'il affirmait, avec plus ou moins naïveté, avoir cueillies dans le quartier. Quand le brave Fidèle est décédé, les sœurs ont annoncé au fleuriste du voisinage son départ pour l'autre monde. Et le fleuriste, qui n'avait pas été sans remarquer les pieux manèges de Fidèle le dimanche matin, a aussitôt envoyé une corbeille de fleurs à sa mémoire. En décembre 1985, M. André Pépin du journal La Presse est venu à l'accueil rencontrer sœur Bernier, et même si celle-ci ne voulait pas au départ lui accorder d'entrevue, Savez-vous comment il l'a convaincu? J'ai déjà fait ça avec bien des gens pour convaincre de faire des émissions à la télévision à des gens qui étaient trop discrets. Il lui a dit « Arrêtez donc de vous cacher. Les jeunes n'ont pas aujourd'hui d'autres modèles que les gens comme Boy George. » Aujourd'hui, c'est d'autres noms, évidemment. Il lui dit « Laissez-nous leur présenter d'autres. » Alors, sœur Bernier s'est prêtée à l'interview au cours duquel elle a raconté plusieurs de ses moments heureux et difficiles passés auprès des itinérants de la rue de la Commune. Et quand sœur Bernier est décédée, eh bien, on lui a rendu hommage. Je vous ferai part de ces hommages merveilleux qu'on lui a rendus. Aujourd'hui, les questions de l'accueil Bonneau et de sœur Bonneau et de sœur Bernier, celle qui lui a succédé. Quand sœur Bernier est décédée, vous ai-je dit, on lui a rendu hommage. Et en particulier, sœur Nicole Fournier lui a rendu hommage lors de la messe célébrée à l'accueil Bonneau le 24 juin 1986. En présence de la clientèle, comme ils disent, parce que ils les appellent leurs clients, les gens qui viennent là. Donc, en présence de la clientèle, puis de sa dépouille mortelle. Voici quelques lignes de cet hommage, de la part de sœur Nicole Fournier. Sœur Eugénie Bernier n'aime pas les compliments, les cérémonies, les éloges. Elle aimait seulement ce qui venait du cœur, spontanément. Et en ce moment, elle sait que le silence de nos cœurs porte de reconnaissance envers elle. Il fut pour nous une mère, une amie. Nous pourrions lui exprimer silencieusement notre gratitude dans le secret de nos cœurs, mais nous dirons tout haut un peu ce qu'elle fut pour nous, pour louer le Seigneur des dons qu'il nous a faits à travers sœur Eugénie Bernier. De sœur Eugénie, nous avons admiré la force, l'énergie. Force et énergie que la maladie, le poids de l'âge et de l'usure ne semblaient pas altérer. Jusqu'à la dernière journée, elle a lutté, dans le seul espoir de toujours servir et aimer ceux à qui elle avait consacré sa vie. Ce grand courage était en effet au service de son amour des petits, des démunis, des gens mal pris. Pendant des années, sœur Bernier a fait vivre Bonneau. Sa plus grande joie était de revenir avec une camionnette pleine de nourriture, pleine d'habits pour nourrir et habiller ceux qui en avaient besoin. Sa charité se faisait inventive, prévenante, créatrice pour soulager les blessés de la vie. Nous pourrions relever bien des faits qui souligneraient ses qualités de cœur et d'esprit. Il n'y aurait de quoi écrire un livre pour raconter les 21 ans de dévouement de sœur Bernier. Sœur Bernier. Ces deux femmes, donc sœur Bonneau et sœur Bernier, comme bien d'autres religieuses qui ont travaillé auprès des itinérants, ont fait à leur façon, dans des formes souvent improvisées, de l'intervention sociale, car leur travail ne consistait pas seulement à donner du pain et de la soupe, évidemment, hein. Sœur Nicole Fournier tient à rendre hommage aux directrices qui ont succédé à sœur Bonneau, et moi aussi je tiens à mentionner leur nom. On pense toujours qu'il n'y a que sœur Teresa sur la terre. Il y en a des milliers d'autres, et des milliers d'autres, et des milliers d'autres. Des dizaines de milliers d'autres. Pour ne pas dire des centaines de milliers. Sœur Sainte Madeleine, Regina Gagnon. Sœur Delphine Gervais, Sœur Lucienne Paris, Sœur Madeleine Dupont, Sœur Georgette Côté, Sœur Yvette Vachon, Sœur Thérèse Boucher, toutes des sœurs grises de chez nous. Et toutes ont cherché à ce que les personnes aidées, nos gens, les clients, comme on les appelle, se prennent en main et se donnent des conditions de vie plus décentes. Plus décentes. Un des mythes qu'on rencontre souvent au sujet de l'itinérance, c'est l'idée que tous les clochards sont des robinets. Le mot robinet, vous savez d'où ça vient? Ça vient de l'anglais. To rob, frictionner. Un robinet est donc quelqu'un qui boit de la robine, c'est-à-dire de l'alcool à friction. Et aujourd'hui, bien, comme le vin est accessible dans les dépanneurs et dans les épiceries, rares sont les robineux, ils boivent plutôt du vin. Dans la façon de donner de la nourriture et de tenir l'accueil bono, et d'accueillir les gens, d'offrir un vêtement devra toujours être impeccable, sans trous, sans taches, avec tous ses accessoires, eh bien, les sœurs et les bénévoles veillent à fonder, puis à donner de la considération à la personne nécessiteuse. C'est là-dessus qu'ils fondent leur accueil. Donner de la considération. Si on veut que cette personne qui ne s'aime pas, qui a eu beaucoup d'échecs dans sa vie, remonte la pente, fasse un effort pour vivre d'une façon plus décente et plus humaine et plus heureuse, il faut que ce mouvement vienne de son intérieur. Et Sœur Nicole Fournier déclare de façon merveilleuse, « Vous ne pourrez jamais décider pour un autre de changer quelque chose dans sa vie. Il faut qu'il ait de la considération pour lui-même et qu'il s'aime assez pour arriver à changer quelque chose dans ses habitudes. Nous ne faisons, dit Sœur Nicole Fournier, nous ne faisons pas d'intervention avec autorité à l'accueil du genre. Tu es un bum. Tu devrais changer. Ne vois-tu pas que tu te détruis? On veut tout simplement créer une bonne relation avec la personne dans le besoin et établir avec elle un climat serein d'échange qui nous permettra de l'aider dans ses problèmes. Si la personne fait un geste pour s'aider, alors nous acceptons de faire un bout de chemin avec elle. Il y a deux idées de fond dans tout ce que nous faisons, dit Sœur Nicole Fournier. Permettre à quelqu'un de manger, de s'habiller, de trouver un logement, assurer la survie de l'individu dans un contexte de dépannage. Mais nous avons aussi une volonté d'aller plus loin. Si nous pouvons reconstruire le tissu humain autour d'une personne, lui redonner une énergie nouvelle pour qu'elle se reprenne en main, elle pourra avoir une vie plus humaine, plus décente. Et nous sommes là afin de soutenir l'effort de quelqu'un et non le forcer à évoluer. Un gros facteur dans le changement de clientèle de l'accueil Bono est survenu dans les années 75-80 à cause des nouvelles politiques en santé mentale commencées par le ministre Jacques Lazure, mon ancien confrère de classe à Brébeuf. Nous sommes du même conventum. C'est pas un catholique très convaincu, hein? Et ça a entraîné progressivement la désinstitutionnalisation des psychiatrisés que l'on voit dans la rue et qui sont perdus. Pauvres. Parfois, les gens me demandent « Quel est votre taux de réussite ?» C'est assez difficile à évaluer. Il y a eu des moments où certains ont dit « Il ne faut pas que la nourriture soit trop abondante, ni très bonne, afin que les gens ne s'habituent pas à venir ici. » Eh bien, qu'ils viennent ici juste pour un dépannage et qu'ensuite, ils puissent repartir par eux-mêmes. Ben, sœur... Nicole Fournier dit, j'appelle cette façon de voir un rêve de fonctionnaire. Il y a des gens qui vont toujours avoir besoin de bono. Et ce n'est pas parce qu'on ne réussit pas à les remettre sur pied, puis à s'en défaire, selon le vocabulaire de ces idéalistes, que c'est un échec, voyons donc. Notre action modérée et tolérante n'est pas non plus du maternalisme à outrance. Nous ne cherchons pas à garder notre monde, ajoute Sœur Fournier. Si un itinérant devient en mesure de voler ses propres ailes, nous l'encourageons à le faire en le remettant dans un fonctionnement autonome. Et s'il ne peut pas y arriver, même avec notre encadrement, bien nous l'acceptons aussi. C'est correct ainsi. Il n'y a pas de reproche. Il y a des gens qui sont avec nous jusqu'à la mort. Et nous nous occupons même de leurs funérailles. C'est ce qu'il faut faire, même si ça dure 23 ans. C'est ce qu'il faut faire, comme je les comprends donc. Il s'agit surtout de ceux dont nous administrons les revenus. Il y a des gens pour qui nous devenons la famille, hein? Ils viennent ici pour manger, participent au bingo, s'inscrivent au camp d'été, se font couper les cheveux, assistent à la messe du dimanche et suivent toutes nos activités. Vous savez, le portrait type des clients de l'accueil Bono, mais c'est un homme un peu au-dessus de la quarantaine, qui a fait un début de secondaire, puis 2/5 de l'échantillonnage déclare avoir du travail 5 ans auparavant. Avec les années, les expériences qu'on a connues à l'accueil Bonneau, on ne croit pas qu'on peut mettre ensemble tout le monde, hommes, femmes, jeunes et vieux. C'est un peu ce qui a étouffé Dernier Recours, vous vous souvenez, hein? Qui avait essayé courageusement d'accueillir toutes les problématiques. Bien, l'accueil Bonneau est orienté vers les hommes seulement, qui ont des problèmes de toxicomanie, de santé mentale et des difficultés économiques. Ce sont les trois volets de la clientèle de l'accueil Bonneau. À l'accueil Bonneau, les sœurs, les bénévoles, ne veulent pas être les partisans du statu quo ou de la résignation. Elles veulent, ces personnes, que les gens désirent améliorer leurs conditions générales de vie. C'est très important que la nourriture soit bonne, les locaux agréables et le linge qu'on leur donne impeccable. Et pour qu'une personne change quelque chose dans sa vie, il faut qu'elle s'aime. C'est pas compliqué, il faut qu'elle s'aime. Ils ont souvent une image bien négative d'eux-mêmes. Alors, si on veut qu'ils fassent des efforts pour se donner de meilleures conditions de vie, bien, il faut qu'ils aient davantage confiance en eux-mêmes, qu'ils s'estiment beaucoup plus. Donner de la nourriture belle et bonne et des vêtements en bonne condition dans des locaux attrayants, c'est donner de la considération à tous ces gens-là. Dire à chacun, tu es quelqu'un. C'est le point de départ d'une relation. Une relation d'aide qui est basée sur la foi en l'autre. Vous avez alors la chance qu'il se passe quelque chose, que ce contact réveille quelque chose en la personne et l'encourage à faire un bout de chemin. Et parmi le personnel de l'accueil Bonneau, salariés ou bénévoles, se trouvent des ex-itinérants, saviez-vous ça? Et pour eux, l'accueil Bonneau a été comme une bouée de sauvetage. Il constitue à peu près le tiers du personnel qui fait fonctionner l'accueil Bonneau. Vous savez qu'après les parties de bureau, le dernier vendredi avant Noël, à l'accueil Bonneau, on reçoit par taxi beaucoup de nourriture. Alors préparez-vous, là. Des plats de sandwich, des salades, des viandes froides, ça aide beaucoup l'accueil Bonneau, ça, après les parties de Noël. Hein? Le samedi avant Noël, Sœur Fournier fait toujours la nourriture de la journée avec ses restes de partie. Le temps des fêtes permet aux gens de l'accueil Bonneau de recevoir beaucoup de nourriture. Les gens pensent davantage aux démunis. Ça devient un réflexe pour plusieurs d'envoyer les surplus de nourriture. Alors, auparavant, bien, ça leur arrive, à cette pauvre sœur Fournier puis aux autres qui administrent tout ça, de tirer le diable par la queue, comme elle dit, selon l'expression populaire. Et elle dit, sœur Nicole Fournier, j'ai vu des mois, depuis que je suis ici, à me demander comment je ferais pour nourrir notre monde. Ne la laissez pas dans son inquiétude, cette sœur admirable. Or, les sœurs grises ont été l'initiatrice depuis longtemps, hein, les gestionnaires de grands hôpitaux. Évidemment qu'avec l'installation du ministère des Affaires sociales et la prise en charge par l'État de soins de santé, eh bien, la situation a évolué. Je dis ça pour les nouveaux arrivants qui vivent parmi nous et qui savent pas d'où viennent ces sœurs grises. Elles avaient des entreprises énormes, des hôpitaux importants. Sur le territoire de l'île de Montréal, bien, elles ont actuellement beaucoup plus d'insertions personnelles et de petits centres, et l'accueil Bonneau est sans doute le plus connu. Mais elles ont toutes sortes de choses. Elles ont la maison du partage Zioville à la Pointe-Saint-Charles, la maison Marguerite, qui existe depuis une quinzaine d'années avec 11 lits pour femmes itinérantes. Puis, il y a un centre de jour qui s'appelle Bonjour Toi, où les femmes un peu désolées seules peuvent se rencontrer, rue Saint-Mathieu. Et puis, elle participe également aux activités de la roulotte, là, le bon Dieu dans la rue. Et puis, les jeunes connaissent les horaires, évidemment, de cette roulotte. Hein. C'est la roulotte de l'abbé, je dis bien l'abbé, ou le père Emmett Jones, que j'ai connu au grand séminaire. Je l'ai bien connu là-bas, quand il était jeune. Non, il avait pas ses cheveux blancs et sa barbe blanche, évidemment. Et les sœurs grises ont été également liées à la fondation en 1969, à l'évolution de la Maison du Père, au 1650 boulevard René Lévesque. Et, vous savez, c'est formidable tout ce qu'ils font. Mais savez-vous qu'ils ont très peu de lait? Si vous avez du lait en trop, ou si vous connaissez des gens qui pourraient aller leur porter du lait frais, c'est très important. Ils en manquent. trouver un logement abordable, salubre, sécuritaire. C'est un grand problème pour les démunis du centre-ville. Si vous saviez comme c'est difficile quand on s'occupe de quelqu'un comme ça, c'est terrible. On estime que le potentiel de maisons de chambre du bas de la ville, pendant les 20 dernières années, était réduit de plus du tiers de ce qu'il était. N'est que davantage, mais... Or, les sœurs ont rêvé d'une maison de chambre pour l'accueil Bonneau. Une maison sise au 1051 Saint-Denis, qui était alors en rénovation. Puis avec, heureusement, les autorités de la ville, Mme Françoise Stock en particulier, au printemps de 91, eh bien, de réunion en réunion, elles ont débouché sur un projet de co-gestion entre la maison du père et l'accueil Bonneau, et comme il fallait trouver le nom de cette maison, quel nom on lui a donné? Ben évidemment, c'est Régine Bernier, hein? Une grande maison, superbe. Cette maison compte 53 chambres, équipée d'une unité de cuisine, poêle à deux ronds et frigidaire. Je le mentionne parce que c'est tellement important. Quand mon fils voulait prendre ses... quitter ici parce que il voulait être libre, c'était épouvantable, logé dans des sous-sols affreux. Il n'avait pas les moyens de se payer autre chose, alors il fallait évidemment payer le surplus de loyer, puis le loger ailleurs, puis etc., puis l'aider. Mais ces pauvres gens, ils n'ont rien. Ils ont des emplois de famine. Ils ne savent pas administrer leur budget, souvent. Alors, ils font encaisser leurs chèques à notre propre nom, distribuer, s'occuper de ça tous les jours. Heureusement pour la maison, là-bas, la ville demeure propriétaire de cette maison-là. Et on a confié la gestion à la maison du peuple, à l'accueil Bonneau. Le problème actuel des sœurs grises, c'est le vieillissement des effectifs. Entendez-vous, les jeunes? C'est le vieillissement des effectifs. La relève chez les sœurs grises est peu nombreuse en comparaison des vocations nombreuses du temps de l'entrée de sœur Nicole Fournier chez les sœurs en 1959. L'accueil Bonneau est sûrement la dernière œuvre que les sœurs grises abandonneraient. Mais il reste que c'est un problème réel, grave, dans le maintien des œuvres qui sont soutenues par des institutions religieuses. C'est presque catastrophique. Mais il y a des jeunes quand même qui viennent faire du service chaque jour et font presque tous la même réflexion. Ils s'attendaient à ce que les itinérants soient plus malpropres, plus durs, plus agressifs, toujours sous, etc. Mais c'est là une vision plutôt cinématographique qu'autre chose. Il y a des clochards qui mènent une vie de rue difficile, mais ils sont quand même peu nombreux par rapport à tous ceux qui ont recours aux ressources de l'accueil et des autres maisons. Et les jeunes qui donnent un peu de leur temps et qui découvrent la réalité de l'itinérance d'aujourd'hui se défont de plusieurs préjugés après être venu à l'accueil Bonneau. Et ils voient un certain type d'action possible à partir d'eux. Vous savez, quand on en adopte un, comme j'ai fait, on adopte les gens qui ont le plus beau cœur, les gens les plus reconnaissants, les plus tendres, et qui évoluent au plan spirituel au point d'écrire avant de mourir que le plus beau cadeau dans la vie, c'est d'aimer Dieu et sa famille avec joie. Vous savez que quand on arrive à ça, même si ça prend 23 ans, c'est un grand bonheur. Alors, évidemment, les jeunes souvent ne sont pas très stables. Ils viennent aider, mais à un moment donné, on espère qu'ils continuent dans leur milieu respectif à faire du bien. Il faut attirer leur attention sur le phénomène de l'accoutumance ou de la dépendance aux drogues. Ça leur donne des exemples à ne pas suivre. Parce que souvent, les jeunes disent, moi, je n'ai pas de problème de consommation. Je bois comme tout le monde. C'est mon conjoint qui ne me comprend pas. Mes enfants n'ont pas de patience. Mon patron m'en veut. Et ces gens-là n'ont pas encore reconnu qu'ils ont un problème. Il y a un comité de bénévoles qui a fait un travail de synthèse. Il a composé un énoncé de la mission de l'accueil Bonneau. Qu'est-ce que c'est la mission, d'après eux? Mais c'est une volonté qui date de siècles et de siècles, et qui est toujours actuelle. C'est la sainte audace. Je vous ai déjà fait des émissions sur la sainte audace. La volonté donc de reconstruire la personne humaine, de l'homme seul et sans foyer, de l'itinérant. Reconstruire ça dans toutes ses dimensions, tant corporelles, pour lui donner une santé meilleure, qu'affectives, puis ses dimensions sociales aussi, et ses dimensions spirituelles. Parce que le legs de sœur Bonneau, c'est « N'enlevez pas la figure du Christ aux pauvres que j'assiste ». Elle disait ça. Elle disait aussi « Il ne faut pas chercher ailleurs qu'en cette certitude de foi ». Sainte Marguerite d'Youville, qui a fondé les Sœurs Grises, a laissé un testament spirituel. Une foi inébranlable en la providence de Dieu, qui vient de son cœur tout aimant. Et un témoignage de l'infinie bonté du Père. Et vous savez qu'elle avait une grande passion pour la bonté de Dieu notre Père, Sainte Marguerite d'Youville. Alors les objectifs, c'est de rendre tout le monde qui œuvre à l'accueil Bonneau capable d'entretenir entre eux de bonnes relations humaines et de promouvoir la charité puis la joie dans un engagement personnel et collectif et d'accueillir toutes les personnes et toutes les misères. Oui, puis de contribuer au partage du pain, des vêtements, des services, de l'écoute, du soutien, de l'amitié. C'est pourquoi faire de votre temps. Allez là. Il s'agit de créer aussi des liens de confiance et d'amitié réciproques entre l'accueil et les hommes. De réhabiliter l'homme dans sa dignité humaine, puis de contribuer par leur façon d'être et d'agir à sa réhabilitation. De fraterniser aussi dans la foi, dans cette parole du Seigneur, ce que vous faites au plus petit. Puis cheminer, s'actualiser, améliorer ainsi les services à la clientèle de l'accueil Bonneau. Puis il y a tellement de choses à faire. Faut assurer la préparation des aliments avec les Sœurs Grises, dresser les tables, accueillir, servir les bénéficiaires, apporter du réconfort aux vagabonds, etc., etc. Tellement de choses à faire, les collations, le dépannage, les entrevues d'évaluation, la prise en charge, l'administration des chèques de BS, le suivi psychosocial. J'en passe. Il y en a tellement de choses à faire. La thérapie. En somme, les bénévoles, les employés, les messieurs de Saint-Sulpice, la Société Saint-Vincent-de-Paul, les Sœurs Grises, les membres du conseil d'administration de l'accueil Bonneau. Tout ce monde croit être au service de l'Évangile quand ils viennent en aide aux plus démunis de notre société, les itinérants. La communauté chrétienne qu'ils forment remplit sa mission quand elle offre de la nourriture à ceux qui ont faim, quand elle fournit des vêtements à ceux qui n'en ont pas, quand elle sensibilise ses bénéficiaires à leurs droits, quand elle offre des thérapies à ceux qui désespèrent. Ces gens-là, tous ensemble, s'efforcent d'imprégner un ministère d'amour universel et de compassion, de justice et de respect pour la personne, et surtout pour la personne humaine. N'oubliez pas l'Évangile, dans la mesure où vous l'avez fait à l'un de ses plus petits, de mes frères. C'est à moi que vous l'avez fait. Et cette mission se situe dans une volonté de partage et de service au profit des rejetés, des marginaux, et quelquefois même des irrécupérables. On les aime quand même, les irrécupérables. L'Esprit de Dieu est sur moi, dit Jésus, parce qu'il m'a consacré. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Et cet engagement s'inspire de Sainte Marguerite d'Youville, Mère d'Youville, qui a su garder une foi inébranlable dans la Providence et dont la vie constitue, vous le savez, un témoignage de l'infinie bonté du Père. Alors, tous ces gens qui travaillent à l'accueil Bonneau sont solidaires de Jésus qui a épousé notre condition humaine. C'est ce qu'on va célébrer le jour de Noël. Et ces gens-là s'engagent à modeler leur action sur l'amour du pauvre tel qu'ils le rencontrent à l'accueil Bonneau, en plein cœur du vieux Montréal. Ô Sainte Marguerite d'Youville, plus j'apprends à connaître ta vie, plus je te sens proche de nous. À l'heure de tes premiers amours, le remariage de ta mère avec un étranger a amené la famille de ton ami à le faire s'éloigner de toi. Et tu as connu ce que c'est qu'un chagrin d'amour. Elle s'est mariée, comme vous savez, dans le malheur. Mère d'Youville, Toi qui as eu le sens de l'Église, toi qui te savais solidaire des plus petits en même temps que lié aux responsables de la vie chrétienne chez nous, protège l'Église d'ici.